L'heure de la revue de presse d'Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Bonjour François, bonjour à tous.
Ce matin, la presse s'interroge sur les intentions du président.
Oui, sur la façon dont Emmanuel Macron compte relancer son quinquennat. Il y a d'abord ce fameux rendez-vous avec la nation promis à la fin de l'année dernière. Le site du Monde dévoile les premières pistes et on y apprend que le chef de l'État compte pratiquer l'effeuillage.
Ah oui.
C'est-à-dire multiplier les rencontres et actions. Rendez-vous serait en réalité au pluriel. Le premier, mi-janvier, serait consacré à la jeunesse et au rétablissement de l'autorité, le réarmement civique évoqué dans les vœux. Concrètement, cela pourrait passer par un renforcement du SNU, le Service National Universel, et une plus large expérimentation de l'uniforme à l'école. Le président va rencontrer dans les prochains jours son ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, et celui des Armées, Sébastien Lecornu, pour en discuter. Le Monde voit dans cette volonté, dans ces pistes, la confirmation d'un virage droitier aux accents conservateurs.
Sébastien Lecornu, dont le nom est régulièrement donné par les journaux comme possible remplaçant d'Elisabeth Borne à Matignon.
Oui, car si l'on en croit nos confrères, c'est l'autre interrogation présidentielle du moment. Faut-il remanier, changer de Premier ministre? Et si oui, qui mettra sa place? Le Figaro publie ce matin le portrait de Sébastien Lecornu sur une pleine page. Le trentenaire s'est fait remarquer par le président en 2019 en lui suggérant le grand débat pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Il s'est progressivement imposé dans son premier cercle en cultivant la discrétion. Il n'est pas à la tête de la grande muette pour rien, souligne le journal. Discret et stratège, amateur de politique politicienne, il est conscient que voir son nom circuler est le meilleur moyen de ne pas arriver à Matignon. Il jure n'être candidat à rien, exaspéré qu'on imagine l'inverse. Pas sûr que son éventuelle nomination soit appréciée par la Macronie de gauche, complète l'opinion qui donne aussi les noms de Bruno Le Maire et de Julien de Normandie dans un papier au titre provocateur. Emmanuel Macron a-t-il besoin d'un Premier ministre? Évidemment, la Constitution l'impose, mais la question se pose, selon le quotidien. Analyse, un Premier ministre est une gêne. Il empêche le président de faire comme il veut, c'est-à-dire être seul. D'où des profils similaires depuis 2017, des personnalités discrètes ou peu connues, pas de poids lourd politique qui pourrait l'éclipser. Le Premier ministre simple collaborateur, cette dérive n'a pas attendu Emmanuel Macron, rappelle l'opinion. Nicolas Sarkozy puis François Hollande l'ont pratiqué. Mais elle se retrouve renforcée par le goût de l'actuel chef de l'État pour la solitude. Bref, on comprend sans mal que la réponse est non.
Autre sujet beaucoup plus terre-à-terre, Augustin, les rats dans Paris.
Mais oui, ce sont eux les vrais animaux politiques. Le sujet divise et provoque des réactions parfois exacerbées. Alors Courrier International prend de la distance en publiant cette semaine un long article d'un journal new-yorkais. Présentation de la bête d'abord. Un animal intelligent qui peut vivre n'importe où et se nourrir de n'importe quoi, qui peut avoir jusqu'à 84 petits par an et surtout qui transmet de nombreuses maladies. Mais au-delà de ce portrait rabot, la connaissance sur les rongeurs des villes sont encore limitées, même si tout le monde ou presque a un avis sur le sujet, souligne la reporter. Alors le Muséum d'Histoire Naturelle a lancé un groupe de travail en 2021 pour répondre à des questions très concrètes. Quelle distance parcourt-il dans la ville? Traverse-t-il la Seine? Et surtout, combien sont-ils ces rats? Les indicateurs ne sont pas fiables et si on a l'impression que leur nombre a explosé pendant le confinement, c'est surtout que les gens qui s'ennuyaient les ont plus remarqués qu'avant.
J'aime bien.
Cette démarche scientifique douce ne plaît pas à tout le monde. La journaliste décrit le combat anti-rat dans lequel s'est lancé le maire Les Républicains du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, qui est aussi un combat contre Anne Hidalgo, avec son collectif Ras-le-bol Paris, RAT, il organise des campagnes d'extermination de la glace carbonique asphyxie les bêtes dans leur terrier. Ce n'est pas la première fois qu'une tentative est lancée. En 1920, la ville versait une prime à toute personne qui lui présentait un cadavre de rat.
Génial.
6 mois plus tard, les autorités changeaient leur fusil d'épaule en voyant que des gens avaient commencé à élever des rats pour revendre leurs cadavres. Exactement. La dératisation vouée à l'échec à long terme, c'est la science qui le dit. C'est le résultat d'une étude menée à Vancouver, au Canada, car les rats ne sont qu'un symptôme, conséquence des problèmes d'urbanisme, comme de la mauvaise gestion des déchets ou de bâtiments mal conçus. En attendant que ces problèmes soient éventuellement réglés, un chercheur prône l'apprentissage de la cohabitation, une solution qui dégoûtera sans doute bon nombre de Parisiens et de touristes.
Allez, pour nous apaiser, Augustin, vous nous emmenez au concert.
Oui, car on apprend dans Le Parisien aujourd'hui en France qu'une nouvelle tendance se développe depuis quelques années dans la capitale et dans d'autres villes de France, des concerts à la bougie. Imaginez quelques instrumentistes dans une petite salle illuminée seulement par des milliers de bougies posées au sol. L'ambiance tamisée crée un sentiment d'intimité entre les auditeurs et les musiciens. Au programme, selon les soirs, de la pop, du jazz, mais aussi du classique. Une pianiste interrogée se réjouit de toucher un nouveau public avec ce qui est décrit comme un moment hors du temps. Le concept a été créé en 2019 à Barcelone. Il faut peut-être préciser qu'il s'agit de fausses bougies, question de sécurité, évidemment. Et la chaleur risquerait de désaccorder les instruments. Ouais, mais oui, j'ai été un peu déçu aussi. Hein. Mais bon, si l'on en croit les promoteurs de ces concerts, la chaleur du moment, elle, est bien réelle. Je suggère l'idée pour notre prochain concert de Noël.
Alors je vais vous raconter ma vie, je suis harcelé de publicité sur les réseaux sociaux pour ce type de concert.
Oui, ben moi c'est comme ça que j'en avais entendu parler pour la première fois et je savais pas trop à quoi ça correspondait. Et grâce à cet article du Parisien, je suis peut-être tenté.
Très franchement, j'ai un peu peur que ce soit une façon de masquer la piètre qualité de certaines formations qui...
Il faudra se faire une idée par nous-mêmes.
Qui jouent dans ces concerts. Alors du classique, Augustin, vous passez à la radio pour terminer cette revue de presse.
Oui, grâce à un article fascinant du Monde. Il nous emmène dans le petit cercle des radios amateurs et dans un cercle encore plus fermé, les radios amateurs qui s'intéressent à ce qu'ils appellent les stations des nombres. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de mystérieuses transmissions sur ondes courtes captées par ces passionnés, des voix qui égrènent des chiffres apparemment sans logique. Voilà ce que ça donne en version française. Alors le phénomène remonterait aux années 50. On capte ces étranges chiffres dans différentes langues, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et les radios amateurs s'interrogent depuis des années. Résultats de loterie, transactions bancaires, un bulletin d'enneigement, répond la BBC à une auditrice dont les ondes ont été parasitées par des chiffres. Petit à petit, une explication s'impose. Tout cela est lié à l'espionnage. Incroyable. Aucune confirmation officielle, mais un faisceau de présomptions. Ces chiffres ne pourraient être décryptés qu'avec une clé à usage unique. Avec la fin de la guerre froide, le nombre de ces stations a fortement diminué, écrit Le Monde, mais il était toujours possible d'en capter l'année dernière, avec par exemple des bateaux émetteurs camouflés en chalutier repérés dans la zone où a eu lieu l'explosion du gazoduc Nord Stream 2 en 2022. Comment l'expliquer alors que cette technologie peut sembler obsolète à l'heure du numérique? Oui. Une partie de la réponse à cette question tient à la simplicité du dispositif, fiable et peu coûteux. Les postes radio ne font-ils pas partie de l'équipement standard des foyers dans le monde entier? De la même façon, la propagation des ondes courtes assure une couverture sur des milliers de kilomètres alors que la couverture globale du web n'est pas optimale. En cas de panne généralisée du réseau, les espions pourront toujours communiquer. On apprend que le système russe est toujours très développé. Forcément, ces mystérieuses radios ont inspiré des artistes et des musiciens. Je vous recommande vraiment la lecture de cet article dans lequel on croise des ex-militaires américains, une base abandonnée au nord-ouest de Moscou et évidemment toujours la poésie et la magie de la radio.
Ah, c'est donc à lire dans Le Monde. Merci beaucoup Augustin Lefebvre qui visiblement demain en guise de revue de presse nous récitera de tête 100 000 décimales de pi. Augustin Lefebvre, merci beaucoup et à demain 8h39.